Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Xavier Martinet, Paloma Soria-Brown et Bertie Bourdon. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Swat Boukorsa.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Souvenez-vous, en 2017, Bruno Le Maire, fraîchement arrivé à la tête de Bercy, annonçait son ambition de réduire le poison de la dette française. C'était il y a 3 ans, il y a un siècle, il y a une éternité. Aujourd'hui, face à la crise sanitaire et économique, le gouvernement n'a pas hésité à débloquer des sommes faramineuses, 110 milliards d'euros en soutien aux entreprises et aux ménages, ce qui fait grimper la dette à 115% du PIB. Le ministère des Finances serait-il devenu hétérodoxe ? S'est-il vraiment converti à la relance par la dépense publique ? Et quelles leçons tirer du recours à la dette dans l'histoire ? Voilà les questions essentielles qui vont nous occuper aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure gestionnaire d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du remède de la dépense publique avec nos deux invités. Bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Avec nous également Laure Kenwell-Corr. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS et vous avez dirigé avec Gérard Béor cet ouvrage « Les crises de la dette publique 18e-21e siècle » paru aux éditions de l'Institut de la gestion publique et du développement économique. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui à distance.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un report des charges pour ce mois-ci, mais comme on ne peut pas aller chez les clients, donc forcément l'argent ne rentre pas. Donc le mois prochain, on va redevoir payer nos charges, mais avec l'argent qui n'est pas rentré. Donc forcément, on fait un trou dans la trésorerie, ou alors on s'endette encore plus qu'on peut l'être aujourd'hui.
Ah ben, on économise parce qu'on ne va plus au cinéma, les magasins sont fermés, les restos, c'est la même chose. Quand vous les additionnez, ça fait un 2, 3, 4. Ah, on est dit donc, là où je mettais 300 euros, rien. Si nous, les retraités qui avons un peu de pouvoir d'achat, on ne dépense pas, c'est pas bon. Il faut aider à ce que ce pays reparte pour que nos jeunes derrière, ils aient du boulot et qu'il y ait le moins de problèmes possible.
Je ne sais pas si je vais rouvrir. Je suis dans le questionnement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire vite et trouver des solutions. Maintenant, aujourd'hui, nos restaurants doivent avancer les salaires des salariés. Franchement, on estime quand même à 40% des restaurants qui ne seront pas capables d'ouvrir leurs portes à la reprise. Donc tout ça me paraît compliqué, mais il faut qu'on trouve absolument des solutions.
Les difficultés des entreprises et des particuliers confrontés à l'arrêt d'une bonne partie de l'activité. Pour éviter un effondrement de l'économie, le premier projet de loi de finances rectificative prévoyait une aide de 45 milliards d'euros, le second de 110 milliards d'euros. Et il faut s'attendre, en fonction de la situation sanitaire et économique, à ce que ce plan soit encore renforcé, Xavier Timbaud ?
Oui, c'est effectivement quelque chose qui risque d'être assez probable. On est dans une première phase de la crise sanitaire, celle qui appelle le plan de soutien à l'économie. Le but, c'est de préserver le tissu économique, préserver le revenu des ménages, préserver le plus possible la situation des entreprises, même si vous avez entendu les difficultés que les chefs d'entreprise annoncent. Et puis, il y aura une autre phase, déjà le déconfinement, qui va être un retour très progressif à la normale. Et il y aura enfin une troisième phase qui sera le moment de la récupération, qui peut durer assez longtemps parce que il faudra que tous les agents économiques reprennent leurs habitudes de production, de consommation. Et ça, pas simplement en France, mais aussi partout dans le monde. Donc oui, on n'est qu'au début, on n'est que dans la première phase, même si elle est très brutale et elle est très rapide, mais on n'est que dans la première phase de cette crise.
Le PIB de la France a déjà chuté de près de 6% au premier trimestre, selon l'INSEE. Mais pour beaucoup d'observateurs, le pire est à venir. Vous partagez à ce point de vue, Xavier Timbaud ?
Alors effectivement, les chiffres qui ont été publiés par l'INSEE sont des chiffres qui correspondent au premier trimestre de l'année 2020. Et dans ce premier trimestre de l'année 2020, il n'y a que 15 jours, 2 semaines de confinement. On estime que l'activité chute de 30% pendant le confinement et donc au deuxième trimestre, qui comptera au minimum 6 semaines de confinement, on aura un impact beaucoup plus fort. Donc de ce point de vue-là, ça n'est que l'annonce, le préalable, le préliminaire au chiffre du deuxième trimestre qui sera effectivement probablement très inférieur à celui-là.
Et c'est sans doute ce qui explique l'ampleur de ce plan d'urgence aujourd'hui, une ampleur qui est historique selon vous, Laure Kenwell-Corr ?
Écoutez, franchement, on n'a pas eu un tel plan tout au long du XXe siècle, lors des deux guerres. La Première Guerre mondiale, le mot plan n'existait même pas. Et c'était une guerre qui était complètement improvisée, enfin non préparée, et donc qui a donné lieu à des choix budgétaires improvisés. Et donc il n'y a absolument pas de plan de relance similaire, en tout cas après la Première Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a eu un plan de relance, d'une certaine manière, mais qui était beaucoup plus structurel, puisqu'il s'agissait de créer de nouvelles structures d'État pour contribuer à la reconstruction de l'économie, avec notamment le Commissariat général au plan et les nationalisations. Donc c'était légèrement différent.
Peut-être peut-on aussi comparer ce plan avec celui qui a été mis en place au lendemain de la crise de 2008. C'était 34 milliards d'euros qui constituaient ce plan de relance de 2009-2010, Xavier Timbaud.
Oui, c'est effectivement ce chiffre-là. Et donc, on voit qu'on est déjà très au-dessus de ce qu'on avait mis en place pour la crise de 2008-2009. Et encore une fois, ça n'est que le début, c'est-à-dire qu'on n'est que dans la première phase. Donc, très probablement, il y a des plans de relance qui vont venir s'additionner encore. Il y a d'une certaine façon quand même des leçons qui ont été tirées de la crise de 2008-2009. La leçon, c'est il vaut mieux agir très fort au début de la crise pour limiter au maximum les dommages, parce que ces dommages laissent des cicatrices qui mettent très longtemps à disparaître. La crise de 2008, elle a commencé en 2008. En 2018 ou 2019, on en a encore des séquelles. Donc vraiment, la doctrine est aujourd'hui d'essayer d'éviter au maximum d'avoir à traîner cette crise pendant très longtemps. Et ce qu'on dépense, même si c'est énorme au début, peut éviter, en fait, au final, une dégradation des comptes publics et de l'activité économique qui sera bien plus forte.
Ce qu'il faut sans doute expliquer, c'est que la dette publique devrait donc exploser, car non seulement les dépenses publiques augmentent, mais en même temps, les recettes diminuent, ce qu'on appelle l'effet ciseau, Xavier Timbaud.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a non seulement une augmentation des dépenses, par exemple le dispositif de chômage partiel qu'il faut financer. On pourrait penser aux dépenses en matière de santé, mais en fait, c'est assez négligeable par rapport au soutien des revenus des ménages. Donc, le chômage partiel constitue un élément très important. Et puis, il y a le fait que un certain nombre d'agents vont avoir de l'activité en moins, en particulier les entreprises. Mais c'est vrai aussi des indépendants, c'est vrai aussi des salariés en situation précaire. Ils vont avoir moins de revenus, ce qui veut dire moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, puisqu'il y a moins de consommation, moins d'impôts sur le revenu. Et donc, au final, on aura une diminution des recettes. Alors, il y a dans l'évolution de la dette publique un troisième élément qui intervient, qui est que on regarde la dette publique en ratio par rapport au produit intérieur brut. Et donc, non seulement la dette publique va augmenter, mais aussi le dénominateur, le produit intérieur brut, lui-même va baisser, et ça va contribuer à faire augmenter le ratio. Donc il y a un triple ciseau, en quelque sorte, même si c'est assez difficile à se représenter et à se visualiser cet objet, qui fait jouer d'une part l'augmentation des dépenses, d'autre part la diminution des recettes, et enfin la réduction du dénominateur.
Mais ce qui rend peut-être ce plan inédit, c'est qu'il soutient à la fois les entreprises et les ménages, c'est-à-dire l'offre et la demande. Et ça, c'est peut-être l'une des leçons, justement, qu'on a tirées de la crise de 2008, Xavier Timbaud.
Oui, tout à fait. C'est une leçon qui a été tirée de l'observation dans la crise des différentes économies, et en particulier de la différence entre l'Allemagne et les autres pays européens. Ce qui avait sauvé l'économie allemande en 2008, c'est ce dispositif de chômage partiel appliqué en Allemagne, qui permettait de suspendre en quelque sorte le contrat de travail, donc porter une partie à la collectivité, donc ça c'est la partie payée par les administrations publiques sur le déficit public, et puis une partie aussi prise par le salarié. Et enfin, l'entreprise en prenait une troisième partie. Mais ça avait permis de réduire la masse salariale des entreprises très rapidement dans la crise. Ça avait permis aux entreprises de s'ajuster avec beaucoup de flexibilité, mais sans pour autant détruire le contrat de travail. Et quand la reprise était arrivée, eh bien, les entreprises allemandes n'avaient pas, comme en France, en Italie ou en Espagne, non seulement ni fait faillite, ni n'avaient des comptes très dégradés. Et donc, elles avaient pu repartir tout de suite. Et elles avaient pris des parts de marché, d'ailleurs, aux entreprises françaises, italiennes ou espagnoles. Cette leçon a été tirée, et le dispositif de chômage partiel, il est là pour préserver à la fois le revenu des ménages, évidemment, mais aussi pour permettre aux entreprises de s'ajuster très, très rapidement dans ce choc très brutal. Il faut imaginer que, par exemple, dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, on est quasiment à l'arrêt en matière de production. C'est vrai aussi dans certains secteurs industriels, comme dans l'industrie automobile. Quand on est face à un arrêt brutal de la demande, ben, l'entreprise doit pouvoir s'ajuster très très rapidement, et elle n'a même pas le temps de licencier ses salariés. Donc, non seulement le licenciement des salariés aurait des conséquences qui s'enchaîneraient, mais de toute façon, l'entreprise ne pourrait pas s'ajuster suffisamment rapidement. Et le chômage partiel est précisément le dispositif qui va lui permettre de s'ajuster et de maintenir la situation des ménages.
Ce qu'on a pu entendre aussi au moment de la crise de 2008, c'est que la croissance, la relance avait été entravée par une politique d'austérité qui aurait été décidée en France à partir de 2011-2012, justement pour résorber la dette. Mais est-ce qu'on est bien sûr que cette politique d'austérité a effectivement été menée en France? Tous les économistes ne sont pas d'accord là-dessus.
Alors, il y a un débat sur effectivement qu'est-ce qu'on appelle une politique d'austérité, c'est-à-dire est-ce que c'est une réduction de la dépense publique ou est-ce que c'est une moindre augmentation. La caractéristique des politiques qui ont été menées en France a été de, en fait, plutôt augmenter les impôts que de réduire la dépense. Mais il y a bien eu une contribution négative de la politique économique, de la politique budgétaire, et en particulier de son volet imposition, à l'activité économique. Par ailleurs, il ne faut pas simplement regarder la France. Cette austérité, elle a été généralisée en Europe. Et donc, comme les économies européennes sont extrêmement connectées et reliées, l'austérité qui était faite dans chacun des pays européens, l'austérité au sens d'une contribution négative de la politique budgétaire à l'activité économique, eh bien, cette austérité s'est démultipliée en quelque sorte par son côté simultané, synchrone, entre les pays européens. Donc oui, il y a bien eu une contribution négative. Alors, ceci étant dit, ça c'est un petit peu la fatalité et toute la question du tempo quand on est face à une crise économique. C'est pour ça que c'est très important, même si ça paraît coûter très très cher, de réagir très tôt et de façon très ciblée, comme avec le chômage partiel, parce que de toute façon, il y a un moment où il faudra payer ces dépenses de soutien à l'économie et il faudra au moins stabiliser la dette publique, voire commencer à la diminuer. Et donc ce moment-là sera un moment où on arrêtera de soutenir l'économie, où on va la freiner. Alors toute la question, c'est à la fois le timing, le tempo avec lequel on fait ce retour à l'équilibre des finances publiques, d'une part, et puis d'autre part, l'ampleur avec lequel on le fait. Or précisément, l'idée d'agir très vite, c'est d'essayer de limiter l'ampleur future de l'ajustement qu'il y aura à faire, et c'est aussi permettre d'avoir le rebond le plus rapide possible de l'économie, pour ne pas être obligé de commencer la politique d'austérité alors qu'on sort à peine de la crise, ce qui était le cas en 2011-2012. Les économies sortaient à peine de la crise et en quelque sorte, on aura remis un coup sur la tête avec les politiques d'austérité.
On va voir les différentes solutions qui sont proposées effectivement pour résorber la dette. Mais d'abord, il faut peut-être préciser aussi, Xavier Timbaud, que cette crise du coronavirus va également peser sur les finances des collectivités locales qui, elles aussi, tentent de soutenir l'économie à leur niveau.
Alors oui, tout à fait, elles le font parce qu'un certain nombre de leurs dépenses augmentent, des finances qui se dégradent parce que là aussi, le ralentissement économique leur pèse beaucoup, comme par exemple l'arrêt des transactions immobilières, qui sont une source de recettes pour les collectivités territoriales. Il y a aussi tous les dispositifs qui sont nécessaires à mettre en place et qui vont être aussi très coûteux dans la phase de déconfinement, dans l'organisation des services publics, l'organisation des écoles, l'organisation des transports. Non seulement les collectivités territoriales doivent assurer la sécurité sanitaire de leurs employés municipaux ou territoriaux, mais elles doivent aussi augmenter les mesures de sécurité sanitaire pour tous les usagers de ces services publics. Donc tout ça sont à la fois des casse-têtes en matière d'organisation, mais aussi des coûts supplémentaires. Et évidemment, dans cette situation-là, les collectivités territoriales n'ont pas de ressources supplémentaires. Donc elles se retrouvent avec plutôt des ressources en moins, des exigences en plus. Et effectivement, là aussi, elles sont prises dans un ciseau qui est moins massif que celui qui touche l'État central, parce que l'État central doit prendre le choc de ce chômage partiel et de la baisse générale des recettes fiscales, mais qui, à l'échelle des collectivités locales, va effectivement poser un certain nombre de problèmes.
L'État central et la sécurité sociale, dont la dette devrait s'alourdir considérablement.
Oui, tout à fait, parce que c'est un des mécanismes par lequel le chômage partiel joue, mais aussi les arrêts de travail pour garde d'enfants, c'est qu'en fait, le salarié passe dans un régime d'indemnisation, et donc il n'y a plus de cotisations sociales qui sont versées au titre de son salaire, alors que, par contre, il continue d'accumuler des droits, par exemple, des droits à la retraite. Alors, effectivement, tout ça va constituer une baisse brutale de recettes. Il y a presque 10 millions de personnes qui sont aujourd'hui en France en chômage partiel. Et donc, ça fait un manque à gagner qui est considérable pour les administrations sociales et qui, effectivement, se traduira par un déficit des administrations sociales et une dette. Et puis, ça, c'est pour l'après de la crise. Ça sera au sujet des discussions en 2021, très probablement. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire face à cette dette. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut la transférer des administrations sociales à l'État central? Ou est-ce qu'il faut augmenter les cotisations sociales, le taux de cotisation sociale, pour pouvoir progressivement la rembourser?
Mais la difficulté aujourd'hui, Xavier Timbaud, c'est qu'il faut faire face à une nouvelle crise, alors que, comme vous le disiez, on paye encore les conséquences de la précédente, et notamment le fait que la dette publique atteint désormais un niveau deux fois plus élevé que celui qui prévalait avant la crise de 2008.
Oui, c'est effectivement ça. La dette publique de la France, par exemple, en 2008, était de l'ordre de 60%. Elle est aujourd'hui pratiquement de 100%. Et effectivement, cette nouvelle crise vient se rajouter. La crise de 2008 a induit une augmentation de 40 points de PIB. C'est aussi un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Les 43 milliards, les 100 milliards de plans complets, en incluant les garanties de crédit et de report de charges fiscales et sociales mis sur la table par le gouvernement, en fait, représentent un peu moins de 5 points de PIB. Donc aujourd'hui, mettre 100 milliards sur la table, c'est prendre le risque d'augmenter la dette publique de 5 points de PIB. Mais finalement, par rapport à l'augmentation qu'on a eue en 2008, d'une augmentation de 40 points de PIB, au final, si jamais ça n'était que 5 points de PIB, on s'en tirait assez bien. Mais c'est vrai que les choses se rajoutent et que là, encore une fois, la comparaison avec l'Allemagne est sévère, elle est redoutable, puisque l'Allemagne, en 2008, a vu sa dette augmenter, mais a réussi, à partir de 2013-14, à rediminuer sa dette pour être aujourd'hui pas très loin de 60%, et donc dans une situation qui paraît assez confortable de ce point de vue, en tout cas qui peut accepter une augmentation de sa dette peut-être plus facilement que d'autres pays.
Mais le parallèle entre la crise de 2008 et la crise que l'on traverse actuellement trouve certaines limites dans le fait notamment que la première, la crise de 2008, a subi un choc endogène au système économique, alors que dans le cas du coronavirus, il s'agit d'un choc exogène, Xavier Timbaud, extérieur à notre système.
C'est tout à fait exact, c'est assez important parce que autant la crise de 2008 ressemblait à un château de cartes qui s'effondre parce que finalement il est très fragile dans ses structures, autant la crise que l'on traverse est une crise dans laquelle le système économique subit un choc externe et donc qui peut être compromis dans son équilibre structurel, mais c'est pas une faille interne, disons, qui déclenche cette crise. Par ailleurs, même si c'est assez difficile de savoir quelle va être la durée de la crise sanitaire, mais a priori, l'impact économique le plus important, il se produit au moment du confinement strict. Et l'objectif et les instruments dont on va disposer, les tests, les masques, une meilleure maîtrise des mesures de distanciation sociale, un certain nombre d'adaptations par rapport à tout ça, devrait faire qu'on ne va plus être obligé d'appliquer un confinement strict sur l'économie. Et donc, on va pouvoir progressivement avoir à nouveau une activité économique. Et une activité économique qui se fera dans un monde, finalement, qui n'est pas endommagé par un écheveau de dettes réciproques qui s'autodétruisent, comme c'était le cas pour la crise de 2008, ou du capital physique, productif, qui serait détruit, comme c'est le cas après une guerre. Donc, en quelque sorte, on va retrouver l'économie plus ou moins intacte après cette crise. Et donc ça peut permettre d'avoir un rebond très fort de l'économie. Alors, il y a un autre élément, c'est que, comme on a soutenu le revenu des ménages, en particulier par le chômage partiel, les ménages ont aujourd'hui une épargne qui est tout à fait importante. Et ça va constituer en quelque sorte un plan de relance au moment où cette épargne se déversera, même si elle se déverse partiellement, dans l'économie. Donc oui, il y a des grandes différences par rapport à ce qu'on a pu connaître. On a des chiffres spectaculaires de croissance pour l'année 2020 qui commencent à circuler, où il y aurait moins 10% de croissance pour 2020. Mais il y aura très probablement en 2021 des chiffres de croissance positifs tout aussi extraordinaires. Parce que, probablement en 2021, il y aura un effet de rattrapage très fort qui jouera et donc qui viendra quand même donner à cette crise un caractère spectaculaire, ça c'est indéniable, mais peut-être finalement moins grave que l'a été la crise de 2008.
Nous avons vu les conséquences que l'on a pu tirer de cette crise de 2008. Et si l'on se tournait maintenant vers la Première Guerre mondiale pour observer les moyens mis en œuvre par l'État afin de financer la guerre, quelles leçons peut-on en tirer ? Éléments de réponse dans un instant.
Bienheureux les gens qui ont des rentes. Ma situation est différente. Il me reste un ticket d'autobus, soit plus, et la vie pour moi est un rêve. Je suis fauché, voilà ce que c'est que d'être un défauché. Je n'ai, je vous le dis, plus un radis, plus un pélo, plus un maravédis. Faut pas se frapper, c'est la grise. Y'a pas que moi qui est dans la mouise. Je suis fauché, mais pour si peu je ne vais pas pleurnicher. J'ai perdu tous mes sous à la bourse, et le reste je l'ai perdu aux courses. Sur un canasson qui à Auteuil tout seul devait arriver dans un fauteuil. Je suis fauché, dès le départ le craque a trébuché, mais cravaché par son cocher. Alors le noble animal s'est fâché, tout seul il saute à la rivière, tout seul il reste en arrière. Je suis fauché, à qui pergaille qu'est-ce que j'aurais touché. Quand on est comme moi en chômage, cela offre quelques avantages. L'homme du gaz, le tailleur, l'épicier, l'huissier, je réponds, je ne peux pas vous payer. Je suis fauché, c'est pas de ma faute si je suis débauché.
Écoutez Roland Toutain, Je suis fauché sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie d'un économiste, Xavier Timbaud, et d'une historienne, Laure Kenwell-Corps, pour parler du remède de la dépense publique face à la crise. Laure Kenwell-Corps, vous avez publié au mois d'avril un article dans La Vie des idées intitulé « Finances de guerre, finances de crise », dans lequel vous dressez un parallèle entre la Première Guerre mondiale et la crise que nous traversons aujourd'hui. Et dans les deux cas, ce que vous soulignez, c'est qu'on assiste à une explosion justement de la dépense publique.
Oui, tout à fait. Je rappellerai juste que avant 1914, la dépense publique était égale à moins de 15% du PNB en France. Donc on avait vraiment une dépense publique très faible et surtout on avait le dogme de l'équilibre budgétaire. Donc on a eu, au moment de la guerre de 14-18, une véritable rupture, puisqu'il y a eu à la fois une explosion de la dépense publique, pour financer évidemment le conflit qui était beaucoup plus long, coûteux qu'on le pensait, et qui surtout n'avait pas été bien préparé, même en Allemagne où il y avait eu un trésor de guerre qui avait été accumulé depuis la guerre de 1870, mais cela n'a pas suffi parce que la guerre s'est avérée beaucoup plus longue que prévu. Donc on a cette rupture donc avec l'instauration donc d'une dette publique nouvelle, parce qu'effectivement même avant 14 la dette publique existait, hein. C'était une dette pour financer des grands travaux, des grands investissements, mais c'était une dette publique qui était tout à fait légère. Et là on va passer pendant la guerre et dans l'après-guerre à un niveau de dette publique de 270% du revenu national, tel que Alfred Sauvy l'a calculé. Donc là, vous voyez, on a vraiment atteint des sommets par rapport à ce qu'on connaît maintenant. La grande différence, je dirais, c'est que cette dette publique exceptionnelle était réversible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on entrait dans un système où de plus en plus allait s'accumuler la dette au fil des ans, mais on partait de très bas. Et donc, cette dette publique a été ramenée à 100% du revenu national en 1929. On parlait à peine de dette publique à l'époque. Ce qui comptait, c'était le déficit budgétaire. L'idée était de réduire le déficit budgétaire.
Cette dette, Laure Kenwell-Corps, qui a été contractée en France, elle a été contractée en grande partie auprès des épargnants français au moment de la Première Guerre mondiale?
Oui, il y a eu un élan patriotique formidable. Le gouvernement a fait appel à l'élan patriotique des Français, effectivement. Il a mobilisé tous les canaux possibles pour qu'on puisse acheter des bons de la Défense nationale, des bons du Trésor, que ce soit de tous les guichets bancaires, les trésoreries publiques, les facteurs aussi, quand ils livraient le courrier, pouvaient aussi vous vendre des bons du Trésor. Donc on avait vraiment une mobilisation très très forte et qui a très bien marché, hein, donc auprès de tous les citoyens français, notamment les paysans qui avaient confiance dans les titres d'État plus que dans les actions et les obligations.
Ce serait possible aujourd'hui, selon vous, sachant que le dernier emprunt national date de 1993 en France?
Oui, c'était l'emprunt Balladur. Oui, bien sûr que ça serait possible, mais si vous voulez, les conditions ont complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, Les titres d'État sont achetés par des intermédiaires financiers qui sont les banques, et les fonds de pension, les fonds d'investissement, etc. C'est très difficile pour un épargnant d'aller directement acheter un titre à un guichet public ou à la Banque de France. Le système a complètement changé, si vous voulez. Donc faire appel à la mobilisation de l'épargne des particuliers, c'est vraiment très différent aujourd'hui, ça me paraît impossible. Mais il y a d'autres formes de mobilisation.
Il y a l'épargne et puis il y a aussi l'impôt. Les trois pays que vous avez étudiés, Angleterre, France et Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, se financent également par l'impôt, qu'il s'agisse d'impôt direct ou indirect.
Tout à fait. Alors si vous voulez, pourquoi est-ce que ces pays ont choisi en priorité de se faire financer par la dette publique? Parce que c'était beaucoup plus facile de mobiliser des ressources financières en émettant des bons du Trésor, en lançant un grand emprunt national, que de lever des impôts. Parce qu'il y avait les impôts qu'on levait une fois par an, qui sont sur le mode en plus déclaratif, donc c'est un système assez lourd. Et pour créer de nouveaux impôts, c'est encore plus compliqué, parce qu'il fallait passer devant le Parlement. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup recouru à la dette publique plutôt qu'à l'impôt. C'était que c'était, dans un premier temps, beaucoup plus facile. Notamment en France, où l'impôt sur le revenu n'a été voté qu'en 1914. Et en fait, il n'a pu donner des ressources à l'État qu'à partir de 1917. Donc il fallait bien trouver de l'argent par la dette. Alors, pour revenir à l'impôt, on n'a pas été très vertueux.
Ce sont les impôts sur la consommation qui ont été augmentés en particulier pendant la guerre, et aussi des taxes sur les bénéfices de guerre.
Voilà, il y a eu les impôts sur la consommation qui ont été augmentés dans les trois pays, en Angleterre, en Allemagne et en France. Bon, l'Angleterre, elle a été la plus vertueuse des trois, puisqu'elle a financé sa guerre à hauteur de 30% par les impôts. Il n'empêche que effectivement, il y a des impôts exceptionnels qui ont été votés pendant la guerre et ensuite à la sortie de guerre, qui s'appelaient les impôts sur les bénéfices de guerre. Et donc, ça a donné lieu à de grands débats politiques, mais il n'empêche qu'ils ont rapporté un peu d'argent, notamment au Royaume-Uni, où ça a été mieux accepté qu'en France.
Et c'est une époque de débats, en effet, notamment de débats sur la dette publique en Angleterre. En particulier, l'influence de Keynes se fait déjà sentir, Lork & Wellcore, et c'est une période de forte intervention de l'État dans l'économie qui s'ouvre alors.
Oui, alors, les Anglais, c'est eux qui ont produit depuis déjà plusieurs siècles des grands économistes et qui, là, jouaient un rôle important comme conseillers des gouvernements, ce qu'on n'avait pas en France à l'époque et on n'a pas eu pendant très longtemps. Et donc, pour les Anglais, la dette publique, c'était un motif d'inquiétude et d'idées fausses et dont la disparition permettrait, pour certains, d'augmenter la richesse nationale. Donc, vous voyez, on est dans des débats d'un certain niveau de réflexion économique assez intéressant, mais qui ne sont pas de la même nature en France ou en Allemagne, en tout cas. Et donc, il y a effectivement une augmentation de l'intervention de l'État sur deux plans, en dehors de l'intervention financière, les dépenses militaires, les dépenses d'approvisionnement, etc., à l'étranger. Il y a également la naissance, ou plutôt le déploiement, d'un État-providence qui va évidemment se développer. On va financer des allocations pour la veuve et l'orphelin qui sont instaurées à la fin de la guerre. On va instaurer progressivement aussi des allocations chômage, retraite dans les années 20 et 30. Donc on commence à rentrer dans un système d'intervention de l'État au niveau social, auquel s'ajoute bien sûr l'interventionnisme économique et financier. Donc, si vous voulez, je peux vous en parler assez longuement parce que c'est quelque chose d'assez important. On date ça en général de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a commencé dès la fin de la Première Guerre mondiale.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a en effet un dernier outil auquel les États ont recours, un outil financier et monétaire qui est la planche à billets. Ça consiste donc à créer de la monnaie, sauf que l'effet que cela a, Lork & Wellcore, c'est de relancer l'inflation et parfois cette inflation est trop forte, ce qui a été le cas en Allemagne en 1923.
Oui, alors le problème, si vous voulez, c'est que la planche à billets, c'est une forme de dette vis-à-vis de la Banque centrale et que c'est un moyen un peu indolore qui est souvent utilisé par les gouvernements pour faire passer la pilule et que les contribuables ne râlent pas trop parce qu'on augmente leurs impôts. Et puis surtout pour aussi que la dette publique n'augmente pas trop. Donc c'est effectivement un moyen qui a été souvent utilisé, notamment en Allemagne, qui a eu une dette flottante considérable pendant la guerre, qui n'a pas été résorbée au sortir de la guerre, parce qu'en plus on était dans une situation pré-révolutionnaire, donc le gouvernement n'a pas voulu non plus trop agir, n'a pas voulu mener une politique d'austérité. Et donc, il s'est traduit après par, effectivement, l'hyperinflation de 1923, pour schématiser. Donc là, on a vraiment un effet extrêmement négatif de la planche à billets.
Des difficultés économiques qui s'expliquent aussi par le tribut de guerre qui est demandé à l'Allemagne. J'aimerais à ce sujet que l'on écoute un extrait d'un livre de Keynes, Les conséquences économiques de la paix, paru en 1919.
La politique qui consisterait à réduire à la servitude une génération d'Allemands a abaissé le niveau de vie de millions d'êtres humains et a privé de bonheur une nation tout entière, serait odieuse et abominable. Et elle le serait même si elle nous permettait de nous enrichir, même si elle ne semait pas la ruine de toute vie civilisée en Europe. Certains la préconisent au nom de la justice. Dans les grands événements de l'histoire humaine, dans le déroulement de la destinée complexe des nations, la justice n'est pas si simple. Et le fut-elle, les nations ne sont autorisées ni par la religion ni par la morale naturelle à faire retomber sur les enfants de l'ennemi les crimes de leurs parents ou de leurs maîtres.
Laure Kenwell-Corr, que vous inspire ce texte de Keynes qui a acquis une grande notoriété par la publication de ce livre ?
Alors, je suis très intéressée que vous ayez passé cet extrait parce que c'est un vrai sujet pour les historiens. D'abord, bon, il faut savoir que Keynes était justement du côté des Anglais hein, lorsqu'il a publié ce texte, et il défendait la position anglaise et américaine de réduire le montant des réparations allemandes en disant que l'Allemagne ne pourrait pas s'en relever et qu'elle n'avait pas les moyens économiques de s'en relever. Et la France était évidemment vent debout contre cette position, et cette question des réparations allemandes a envenimé les relations entre la France, l'Angleterre et les États-Unis dans toute l'entre-deux-guerres. Ça a été un vrai sujet de discorde, un vrai sujet de tension diplomatico-économique. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que les historiens et les économistes ne sont pas tous d'accord avec cette interprétation de Keynes, c'est sa manière dont il voyait les choses. Et des débats actuels continuent encore, à savoir si vraiment l'Allemagne pouvait payer ou non. En tout cas, on le sait, hein, elle n'a pas vraiment payé l'ensemble de la dette qui lui était réclamée en 1923.
Il y a ces débats sur les réparations allemandes, mais il y a aussi des débats sur la responsabilité de l'inflation dans les difficultés économiques de l'Allemagne dans l'après-guerre et même plus tard dans la montée du nazisme. Là encore, les historiens ne sont pas d'accord, Laure Kenwell-Corr.
Oui, tout à fait, parce que pour certains, il ne faut pas faire trop d'amalgames et de raccourcis historiques en disant que voilà, ça a aussi été une exploitation un peu politique hein, de Hitler, en exploitant un peu le nationalisme allemand, en disant que c'était à cause de ces réparations qu'il y avait eu l'hyperinflation allemande, mais des historiens même allemands ont considéré qu'il fallait disjoindre les choses quand même, c'était pas complètement lié.
Et que si une politique d'austérité avait été menée, peut-être que les difficultés économiques de l'Allemagne auraient été encore pires.
Voilà, parce qu'il y avait cette tension politique et sociale. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Rosa Luxembourg qui était là et qu'il y avait l'influence de la révolution bolchevique de 1917. Et donc il y avait vraiment en Allemagne un climat politique et social très tendu. Et on peut comprendre que la jeune république de Weimar n'ait pas voulu céder aux sirènes d'austérité.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
L'économiste Xavier Timbaud et l'historienne Laure Kenwell-Corr sont toujours avec nous pour parler des débats qui ont traversé l'histoire autour de la question de la dette publique. L'emprunt apparaît en général comme l'une des principales réponses à la crise. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il a servi à financer la reconstruction.
Les dépenses militaires, explique-t-elle, qu'en face du déversoir de milliards représenté par les impôts, les emprunts, l'aide américaine, le français soit à la fin de chaque mois à la recherche des billets de banque qui lui manquent. Cet argent, où est-il ? Le voici. Il fallait reconstruire la France. Il fallait, comme à Marseille, respecter les données locales tout en tenant compte des nécessités de l'urbanisme. Il fallait, comme à Toulon, respecter l'esprit français tout en adoptant des solutions neuves. Il fallait tenir compte de la situation des quartiers détruits, et voici Le Havre. Il fallait respecter dans les petites localités le style régional, et voici un village alsacien. Il fallait, en remettant déjà debout 1 500 000 bâtiments, ne pas craindre les idées hardies, et voici Mulhouse. Il fallait dépenser 2 500 milliards pour restaurer ou édifier 2 400 000 bâtiments.
une archive de 1952 pour relancer l'économie. L'État est alors en première ligne. Les nécessités de la reconstruction vont légitimer le déficit public, Lorcan Welcor?
Tout à fait. On est vraiment dans une phase très différente de l'après-Première Guerre mondiale, parce que là, l'intervention de l'État, elle est réfléchie, elle est légitimée et elle est construite. Et je dirais qu'elle ne se fait pas dans la précipitation, dans l'improvisation, comme ça a pu être le cas après la Première Guerre mondiale. Elle a été pensée par le Conseil national de la Résistance et tous les outils qui vont se mettre en place après 45 le prouvent bien. C'est vraiment une nouvelle étape qui sort, légitimée aussi par l'échec des économies dans les années 30, tous les problèmes qu'il y a eu, le fait que l'État n'intervenait pas ou mal ou trop tard. Tout ça a été pensé pendant et après la guerre. Et donc c'est ce qui a abouti à cette légitimation de la dépense publique.
Et l'État guerrier va alors véritablement céder la place à l'État-providence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale?
Tout à fait. Là, on entre dans une autre phase de l'intervention de l'État, donc l'État-providence, puisqu'en France, on a l'instauration de la sécurité sociale et de tout un système de protection sociale extrêmement avancé, mais ce qui est aussi le cas en Allemagne et en Angleterre. Hein, Angleterre qui était aussi un pays précurseur en la matière. On parle des aspects sociaux. Très important, mais il y a aussi l'intervention économique de l'État, hein, l'État industriel qui va être seul capable de redresser l'économie française. Et donc on met en place le commissariat général au plan, on nationalise l'énergie, les transports et les grandes banques commerciales. Tous ces outils sont censés aider la France à se reconstruire parce que le secteur privé a été considéré comme n'étant pas capable de le faire et on stigmatise également le malthusianisme et la frilosité des banques d'avant-guerre.
Et alors ce qu'il faut souligner, c'est que c'est à partir des années 70, lorsque la croissance commence à patiner, Xavier Timbaud, qu'apparaît la volonté de réduire les dépenses publiques?
Oui, c'est le point de bascule après le premier choc pétrolier. Enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le date. Ça correspond aussi à la fin des 30 glorieuses dans les pays européens et au ralentissement des gains de productivité qui induit une situation de stagflation avec un retour de l'inflation et en même temps une augmentation du chômage. Et là, la doctrine de la relance keynésienne se trouve mise à mal et progressivement s'installe un nouvel univers économique dans lequel on fait de la lutte contre l'inflation avec Paul Volcker à la fin des années 70 qui fait une espèce de coup d'état économique aux États-Unis, la priorité absolue, donc il faut lutter contre l'inflation. Alors c'est renforcé par la fin du système de Bretton Woods et le fait que les taux de change ne sont plus régulés par le Fonds monétaire international, ce qui renforce aussi la nécessité de lutter contre l'inflation dans chaque pays. Et donc à la suite des États-Unis, l'Europe s'engage aussi dans la lutte contre l'inflation. Et puis après, dans les années 90-2000, ce sera les pays en développement.
On a le sentiment que cette logique libérale qui a pris le pas à partir des années 70-80 avait très largement imprégné le gouvernement qui faisait de la réduction de la dette une priorité. Or, Bercy, on le voit aujourd'hui, ne lésine pas sur la dépense. Est-ce que selon vous, Xavier Timbaud, il faut y voir un changement de logiciel ou plutôt une simple réponse pragmatique à la crise?
Il y a eu un changement de logiciel en 2008, c'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements sont arrivés dans la crise de 2008 avec cette expérience libérale qui avait, entre guillemets, fonctionné depuis les années 70 et qui avait amené une certaine stabilité économique et qui s'était imposée jusque dans le traité qu'a constitué l'Europe et les critères de Maastricht. Mais en 2008, tout ça a volé en éclats. Il y a eu une bataille assez terrible parce qu'il restait quand même des résidus de cette doctrine et qu'ils ont fait beaucoup de mal, en particulier au moment de la crise des dettes souveraines en zone euro. Mais combiné avec la crise des dettes souveraines en zone euro en 2012, aujourd'hui, les éléments de doctrine sont que, ben oui, il faut intervenir dans une crise économique, il faut intervenir très vite, de façon très ciblée, pour limiter au maximum les dommages économiques. Et donc, de ce point de vue-là, le gouvernement a vite retourné sa position et vêtu les habits de la crise. Au lieu d'être un gestionnaire en temps de paix, en quelque sorte, qui prépare la prochaine crise, il s'est retrouvé à devoir activer tous ces instruments de crise au travers de la dépense publique et au travers du soutien à l'économie. Mais vraiment, ce changement de pied, il s'est fait très vite parce que depuis les leçons qu'on a tirées de 2008 et de 2012, tout est prêt pour y réagir. Et en particulier, il ne faut jamais oublier, et c'est très important en France, l'influence que peut avoir la Direction générale du Trésor, ministère des Finances, Bercy, en la matière. Et c'est là que les esprits ont changé, en fait, plus que partout ailleurs. C'est pas tellement le ministre, mais c'est le fait que son administration l'alimente en réflexion, ouais. en instrument.
Mais comment expliquer ce changement, justement, Xavier Timbaud ?
L'explication de ce changement, elle est cette expérience extraordinaire qui a été la crise de 2008 et celle de 2012, où on a vu tout un tas de choses, comme la possibilité que la zone euro explose et le fait que la zone euro apparaisse comme mortelle, a été pour cette administration précisément un choc considérable. Et donc, il a invité à réfléchir sur ses dogmes et sur ses conceptions. On est entré dans un monde, après ces crises, de taux d'intérêt qui sont durablement bas. La charge d'intérêt que l'on paye sur cette dette qui a augmenté de 40 points, dont on parlait tout à l'heure, en fait, a diminué. C'est assez paradoxal, ou c'est assez contre-intuitif, que finalement on paye moins cher pour une dette qui est beaucoup plus élevée. Et ça, c'est parce que les taux d'intérêt souverains sont beaucoup plus bas. Tous ces éléments-là sont venus bousculer en quelque sorte les dogmes qui visent à faire de la réduction de la dette un préalable au rebond de l'activité. Et c'est ce qui avait été poursuivi en 2012, juste avant la crise des dettes souveraines, qui a failli conduire à l'éclatement de la zone euro. Et ça, c'est des expériences qui marquent les esprits suffisamment pour qu'ensuite ne retombe pas dans ces vieilles lubies et qu'on ait une approche beaucoup plus pragmatique au fond de la situation économique.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
Laure Kenwell-Corr, oui, bien sûr, sur ce changement de dogme économique au sein de Bercy.
Oui, parce que entre 1970 et 2008, effectivement, il y a eu ce changement qu'a évoqué Xavier Timbaud, ce libéralisme qui revient dans tous les pays, donc où effectivement on réduit le budget de l'État. Mais cette réduction des budgets de l'État, elle ne se fait pas au détriment de la dette publique. C'est-à-dire que Reagan, il a réduit le budget américain en réduisant les impôts, mais du coup, la dette publique américaine s'est envolée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les dogmes sont assez compliqués à analyser, parce qu'en fait, on est entré à partir des années 70-80, dans un endettement généralisé et une course à la dette publique qui, et tout d'un coup, dans les années 2000, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être extrêmement menaçante, mais ce n'était pas le cas auparavant. Et moi, j'insiste aussi sur le fait que, en France, là, le mot dette publique, l'endettement public, on en a parlé très tard. On a parlé dans les années 1990 et auparavant, il me semble qu'on parlait de réduction du déficit budgétaire, mais on parlait de la dépense publique éventuellement, mais on ne parlait pas de réduction de dette publique.
On se souvient de François Fillon disant « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Xavier Timbaud, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, parce que dans cette histoire qu'évoque Laure, il y a un autre élément qui joue, c'est qu'en fait, il y a quand même des injonctions contradictoires en quelque sorte. Donc là, le fait de lutter contre l'inflation, en fait, a nourri la dette publique. Ça a nourri la dette publique parce que pour lutter contre l'inflation, il a fallu considérablement augmenter les taux d'intérêt. Et l'inflation qui favorisait plutôt les emprunteurs, et en particulier les emprunteurs publics, brusquement s'est retournée contre les emprunteurs. Ça a été le cas dès le début des années 80. Et ça a fait que, en fait, au début des années 90, l'inflation était vaincue, mais la dette publique était présente. Et que c'est là où le discours a changé. C'est-à-dire qu'on était avant obsédé par l'inflation. Et une fois que l'inflation est vaincue, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait hérité de toute cette phase à la fois de chômage, en particulier dans certains pays européens comme la France, mais aussi de dette publique importante, et que là, il y avait une espèce de deuxième vague qui s'installait et qui conduisait à une forme d'austérité un peu rampante pour payer en quelque sorte le résultat de cette lutte contre l'inflation qui se traduisait par des dettes publiques plus élevées.
On est passé d'un épouvantail à l'autre, c'est ce que vous voulez dire, de l'inflation à la dette publique, Laure Kenwell-Corr.
Oui, je voulais dire que justement, après les guerres dont j'ai parlé, effectivement, la dette publique a été un petit peu amoindrie, dépréciée grâce à l'inflation. Et donc, ce que dit Xavier est tout à fait juste. Effectivement, là, il y a eu un renversement des valeurs dans ces années 80-90.
L'État emprunte aujourd'hui massivement, on l'a dit, mais que va-t-il advenir de cette dette ? Écoutez le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.
Non, la France n'est pas ruinée et la France peut emprunter aujourd'hui de façon favorable auprès des investisseurs français, européens, internationaux. Au passage, d'ailleurs, l'action très puissante de la Banque Centrale Européenne contribue à ce bon fonctionnement du marché de la dette. Mais la France devra, dans la durée, j'y insiste, rembourser le prix de cet amortisseur collectif. Je souligne à nouveau le fait que l'État amortit les deux tiers du choc, mais cet amortisseur a un coût, c'est la dette publique supplémentaire. Et par rapport à cette dette publique, il n'y a pas de solution miracle. Nous devrons, dans le long terme, rembourser le coût de cet amortisseur par notre travail, par notre effort collectif, mais il y a un certain nombre de pistes partielles pour reporter dans le temps ce remboursement et pour en alléger le coût.
La France devra rembourser à un moment ou à un autre, Xavier Timbaud.
Alors, bon, ça c'est une phrase qui peut toujours être énoncée, elle a un caractère un tout petit peu anxiogène. C'est toujours assez intéressant d'entendre un banquier central, à l'époque où on a voulu séparer la fonction budgétaire de la fonction monétaire, s'exprimer sur les questions budgétaires. Parce que quand c'est le contraire, quand c'est un ministre des Finances qui s'exprime sur les questions monétaires, ça provoque des scandales. Mais donc oui, il faudra effectivement la rembourser. Alors la question, c'est de savoir combien il faudra en rembourser. Quand on fait le compte aujourd'hui et qu'on dit l'année 2020 va être une année sur le plan économique catastrophique, avec moins 10% de croissance, une dette publique qui augmente de 15 points, ce qui est un scénario tout à fait vraisemblable, on se dit, ben voilà, 15 points de dette publique, ça va demander une sacrée augmentation des impôts, ça va demander de faire des efforts sur la dépense publique. Comme en plus on va devoir plus dépenser dans la santé, ça veut dire qu'il va falloir couper dans un certain nombre de dépenses. Alors quand on est un banquier central, enfin, le versant dans lequel on tombe, c'est souvent de revenir sur l'État-providence, justement, en disant il est trop généreux par rapport au système dont on dispose.
Mais cela, ça n'arrivera pas si la consommation est relancée et donc la croissance.
Exactement. On ne peut pas gérer une économie nationale comme celle de la France, comme on gère l'économie d'un ménage. C'est pas parce que ce mois-ci a été mauvais que nécessairement tout va se passer comme ça. Et surtout, on ne peut pas négliger les effets des politiques sur le résultat final. Et donc, voilà, il faudra payer cette dette, mais on ne sait pas encore de combien de milliards va augmenter cette dette. Du coup, la question est un peu prématurée. Alors, on peut la garder en tête parce que, oui, c'est une bonne gestion de dire qu'il faudra payer cette dette. Mais le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas quelle est cette dette.
Et puis, peut-être peut-on rester un certain temps avec une dette à 115% du PIB sans que cela pose de véritables problèmes, et cela à condition que les taux d'intérêt restent bas.
Alors, c'est effectivement une des caractéristiques de notre époque. Les taux d'intérêt sont très bas. Mais quand on dit bas, c'est vraiment très très bas. C'est-à-dire que les taux à 10 ans sont au voisinage de zéro. Et donc, ça veut dire qu'on opère par ces taux bas ce qu'on appelle une répression financière. C'est un petit peu l'équivalent de ce qui se passait dans les années 70 avec l'inflation. Aujourd'hui, quand on prête, quand on cherche à placer son épargne sur des titres sûrs, comme de la dette publique, en fait, on est obligé de payer une taxe. Cette taxe, c'est un rendement très très faible sur son épargne, qui fait que le rendement en termes réels, quand on tient compte de l'inflation, qui même si elle est très très faible, est positive, conduit en fait à une rémunération négative sur votre épargne. Donc, pour la sûreté, il faut accepter d'avoir une rémunération négative. Donc, c'est une répression financière qui est assez douce, qui n'est pas aussi violente que celle qu'on a eue dans les périodes d'inflation élevée, mais qui est quand même présente. Et si elle se maintient longtemps, ça veut dire qu'en fait, cette dette publique qu'on accumule, d'une certaine façon, elle va se résorber lentement par ce mécanisme de répression financière. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques de cette époque. Alors, ça a un côté un petit peu mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette répression financière continuera de pouvoir être possible pendant 10 ans. Est-ce que ces épargnants qui placent leur épargne sur des titres sûrs ne se révolteront pas un jour en demandant des rendements plus élevés? Mais en attendant, on est effectivement dans ce schéma-là. Et dans ce schéma-là, il n'y a certainement pas d'urgence à réduire la dette publique.
Et pour le moment, les obligations d'État, et notamment les obligations françaises, restent intéressantes pour les investisseurs, notamment parce qu'on est dans une période de grande incertitude économique.
C'est exactement ça. C'est le prix pour la sécurité. Donc, elles rémunèrent très peu, voire pas du tout. Mais elles offrent une grande sécurité. Qui veut dire, enfin, très concrètement, quand vous êtes un investisseur et que vous détenez un portefeuille avec de la dette publique française, si vous devez payer quoi que ce soit, vous pouvez le payer avec de la dette publique française, c'est-à-dire que n'importe qui l'accepte comme moyen de paiement. Et ça, c'est une immense garantie, c'est beaucoup plus sûr que d'avoir de l'argent dans une banque. Et c'est précisément pour ça que c'est aussi recherché par les épargnants, par les investisseurs, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus sûr aujourd'hui. Vous voyez, à l'époque de Keynes, dont on parlait un peu plus tôt, les épargnants avaient tendance à détenir de l'or et ça horripilait Keynes parce qu'il se disait, mais quel est l'intérêt de détenir du métal brillant qui n'a aucune valeur économique, qui ne rapporte rien alors qu'on peut investir sur des actifs productifs qui rapporteraient quelque chose. Eh bien, le pendant de cette relique barbare aujourd'hui, c'est la dette publique. Alors, le gros avantage qu'on a par rapport à l'époque de Keynes, c'est que, en fait, cette dette publique, elle peut servir à quelque chose. Elle sert à soutenir les économies et elle sert à les faire fonctionner. Et elle sert à ce que les systèmes économiques continuant, les épargnants peuvent continuer d'avoir confiance. Donc c'est un petit peu à la fois le vertige et la fascination qu'on peut avoir devant cette chose.
Lorcan Welcor, Xavier Timbaud.
Si, non, bien sûr, il y a évidemment des natures d'utilisation de la dette publique qui sont différentes. Et effectivement, quand on utilise la dette publique pour l'investissement, on a l'idée que certes c'est un poids aujourd'hui et que ça sera un gain demain. Quand on est dans une crise, très précisément, la dette publique qu'on accumule, C'est une forme d'investissement. Alors c'est un investissement un peu immatériel, c'est l'investissement qui permet au système économique de continuer. Et si on ne fait pas cet investissement, si on n'accumule pas cette dette publique, on prend le risque d'avoir un système économique qui s'effondre et au final d'accumuler une dette publique qui sera plus élevée. Donc c'est d'ailleurs précisément le piège dans lequel on est entré à partir de 2009-2010, par exemple dans certains pays comme la Grèce, où en craignant d'accumuler de la dette, on a précipité une récession très profonde qui a fini par produire encore plus de dettes que ce qu'on pouvait craindre. Et donc, d'une certaine façon, dans une situation de crise, la dette est une forme d'investissement. Alors, ça ne veut pas dire que on peut toujours vivre au-dessus de ses moyens, mais ça veut dire que quand on est dans une crise, précisément, les critères par lesquels on peut juger cette dette changent radicalement.
Néanmoins, Xavier Timbaud, on ne peut pas complètement exclure que les taux d'intérêt remontent. Alors, comment faire en sorte qu'ils restent bas? Est-ce que, par exemple, la BCE pourrait racheter la quantité d'obligations d'État nécessaires pour que les taux d'intérêt ne dépassent pas un certain niveau, comme ce qui se fait, par exemple, au Japon?
Bah oui, c'est l'extraordinaire à la fois complexité et simplicité des économies modernes et financiarisées dans lesquelles nous vivons. Ce qui, au final, permet de soutenir la dette publique, c'est la Banque centrale. Et la Banque centrale soutient la dette publique, non pas parce qu'elle cherche à épargner à l'État les affres de l'austérité, mais parce qu'elle est là comme institution soutenant en dernière instance l'économie. Et pour soutenir en dernière instance l'économie, pratiquement la seule chose à faire, c'est de soutenir la dette publique. Et donc, on est effectivement pris dans ce cercle. Ça ressemble un peu au baron de Munchausen qui se sort du marécage en tirant sur son lacet. Et ça a effectivement quelque chose d'un petit peu qui s'auto-justifie. Mais c'est le système dans lequel on vit. Alors, juste pour que vos éditeurs comprennent que quand même il y a des formes de rappel à tout ça, la forme de rappel, c'est en l'occurrence de bien comprendre que tous ces instruments, la dette publique dans la crise, la Banque centrale européenne ou la Banque centrale qui rachète la dette et qui maintient les taux d'intérêt bas et qui opère la répression financière, au final, ce sont des décisions dont la souveraineté doit revenir au Parlement, qui doit décider de savoir est-ce qu'on veut rester dans cette situation où les taux d'intérêt sont bas et où les épargnants sont mal rémunérés, ou est-ce qu'on préfère augmenter les impôts, et est-ce qu'on préfère augmenter les impôts sur les riches ou sur la classe moyenne, est-ce qu'on préfère réduire les dépenses sociales au détriment souvent des classes les plus populaires. Et donc au final, tout ça se ramène à une question de redistribution. Et la souveraineté sur cette redistribution, elle est celle du Parlement, et là, encore une fois, il n'y a pas de repas gratuit, il faudra à un moment ou à un autre résoudre cette affaire. Mais on ne doit pas hésiter à utiliser ces instruments quand on est dans une période de crise. Sachant qu'une période de crise, en économie maintenant, c'est aussi une chose que la période de 2008 a bien montré. C'est pas quelque chose qui dure quelques semaines ou quelques mois. C'est quelque chose qui dure plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, il faut aussi accepter ce temps long des crises, en quelque sorte.
Et alors, justement, est-ce qu'il faudrait un débat sur la fiscalité en France? Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, demande la création d'une taxe exceptionnelle sur les groupes non impactés par la crise. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un tel débat, Xavier Timbaud?
Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un tel débat. D'ailleurs, j'appelle de tous mes voeux un tel type de débat. Mais Laurent Berger prend le problème par le mauvais bout, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'opposition, qui est souvent celle que les syndicats font entre le travail et le capital, le conduit à dire que soit les entreprises payent des impôts, soit les ménages payent des impôts. Mais en fait, les entreprises ne sont qu'un intermédiaire juridique, en quelque sorte, pour une propriété très particulière qui est celle des actionnaires. Et donc, ce dont on doit parler, c'est la question de la fiscalité des riches et des pauvres, en fait, pour le dire très crûment, plus que de parler de la fiscalité des entreprises versus celle des personnes. Alors, le débat est toujours un peu plus compliqué quand on le pose comme ça. Donc, c'est sans doute à dessein que Laurent Berger le simplifie. Mais au final, voilà, ça va se ramener à cette question-là, qui est comment on taxe les riches, comment on taxe les pauvres, comment on taxe les actifs, les retraités, comment on reporte sur les générations futures ce débat. Voilà, tout ça sont des questions très importantes qu'il va falloir évidemment aborder le plus sereinement possible et de la façon la plus transparente et la plus démocratique possible.
Laure Kenwell-Corse, sur ce système fiscal à repenser.
Écoutez, on a l'exemple historique de la Première Guerre mondiale où on a remis à plat, en tout cas, et modernisé le système fiscal français. Donc, quelquefois, des crises, des conflits, des crises économiques qui s'ensuivent peuvent naître des innovations financières et des remises à plat. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je voulais revenir sur la question du rôle de la BCE et ce qui interroge un petit peu l'historienne aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, on n'a pas de contrepoids gouvernemental à la politique monétaire de la Banque centrale, on n'a pas de politique budgétaire au niveau européen. Et donc c'est vrai qu'il y a, il faut à un moment se retourner vers le Parlement pour la souveraineté du Parlement pour poser des questions de politique, mais on voit aussi là, en creux quand même, cette crise montre du doigt l'absence de gouvernement fédéral européen, et ce que ça pose comme problème, parce qu'on pourrait justement avoir un budget européen un peu plus conséquent, puis un État européen qui serait plus fort et qui pourrait être aussi plus représentatif de ses pays membres.
On se quitte avec Teardrop d'Avishai Cohen, une reprise d'un titre de Massive Attack. Merci beaucoup Lorcan Welcor et Xavier Timbaud de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Lorcan Welcor, je rappelle que l'ouvrage que vous avez dirigé avec Gérard Béor est disponible gratuitement sur le site de l'Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique pendant toute la durée du confinement. On mettra bien sûr les références sur la page de l'émission. On se retrouve demain pour une émission avec Bruno Terret et Laurence Sialom dans laquelle on se demandera si l'euro peut devenir une monnaie solidaire. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver la compagnie des œuvres de Mathieu Garrigou-Lagrange pour continuer à parler de crise, mais cette fois en littérature. Excellente journée à l'écoute de France Culture.